Aujourd'hui, à Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 17h30 temps universel. Nous sommes lundi 26 février 2018 au sommaire. Violence dans l'est de la RDC, 9 morts dans l'attaque d'une milice Mai Mai. Journée ville morte en Guinée à l'appel des enseignants, d'une centrale syndicale et de l'opposition. Au Burkina Faso, ouverture demain du procès de putschistes dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé.
Qui des gens ont tué ? Qui a tué ? Qui a donné l'ordre de tuer ? Et si ces gens-là sont identifiés, ils doivent être sanctionnés. C'est pas nous qui mettons la pression sur la justice, contrairement à ce que vous pouvez penser.
Reportage à suivre dans la partie magazine de cette édition. Le patron de l'ONU exige l'application immédiate du cessez-le-feu en Syrie adopté samedi par le Conseil de sécurité. Et puis Pyongyang qui continue son opération de charme et voudrait discuter avec Washington. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Des véhicules ont été caillassés et des pneus brûlés ce lundi dans les rues de Conakry. La capitale guinéenne a été transformée en ville morte à l'appel des enseignants, dont puissants syndicats et de l'opposition qui dénoncent des fraudes lors des récentes élections. Le point avec Anastasie Toudièche.
D'une part, l'UFDG de l'opposant Seloud Alain Diallo avait appelé à faire de ce lundi une journée ville morte à Conakry pour protester contre, je cite, « la fraude à grande échelle organisée par le gouvernement » fin de citation, lors des élections locales du 4 février. D'autre part, des leaders syndicaux, non reconnus par l'État, réclament une augmentation des salaires des enseignants de 40% avec effet rétroactif et ont annoncé que la grève se poursuivrait malgré l'annonce samedi par le gouvernement d'une augmentation de 10% des salaires des enseignants. La grogne sociale s'est étendue avec l'appel de l'Union générale des travailleurs de Guinée qui dénonce entre autres une mauvaise gestion de la sécurité sociale ou la politisation de l'administration. Le puissant syndicat a appelé les travailleurs du secteur public, privé et informel à cesser le travail sur l'ensemble du pays, je cite, jusqu'à la satisfaction de ses revendications. Fin de citation.
Au Burkina Faso, 4 magistrats sont accusés par une commission d'enquête de monnayer leurs services. Ont été sanctionnés pour manquement à l'éthique. Les sanctions vont du blâme à la rétrogradation, selon le Conseil supérieur de la magistrature. En octobre 2017, la commission d'enquête avait accusé des magistrats de pratiquer un monnayage de la programmation des dossiers de la liberté provisoire et du recouvrement de sommes d'argent dans les cabinets d'instruction et dans les sous-unités de police judiciaire avant toute décision. En République démocratique du Congo, 9 personnes ont été tuées ce lundi dans une attaque attribuée à des miliciens Hutus dans une région de l'est du pays. Les précisions avec Dilidiko.
Dans l'attaque de Bualanda par des Mai Mai Nyatura, des miliciens Hutus, 4 civils ont trouvé la mort. 5 miliciens ont été tués lors de la riposte menée par l'armée congolaise, a déclaré Jano Makassi, responsable administratif local. Située dans la province du Nord Kivu, la localité de Bualanda est habitée par des ressortissants Hutu, Nandé et Hundé, 3 communautés qui s'affrontent régulièrement pour le contrôle des terres. Selon M. Makassi, l'attaque des miliciens Hutu s'est faite en représailles à l'incendie d'une centaine de cases du village Mutanda, peuplé majoritairement par des Hutus congolais. Les Hutus congolais accusent les Nandé et les Hundé de violer leur droit à la liberté d'installation. En 2017, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans la région lors de violences communautaires alimentées par des différents fonciers.
Toujours en République démocratique du Congo, 2 personnes ont été tuées hier en marge des marches anti-Kabila de catholiques selon l'Épiscopat, les Nations Unies et la police. De leur côté, les organisateurs des marches promettent qu'il n'y aura pas de répit pour le régime de Kinshasa. La police, qui s'était félicitée la veille d'avoir atteint son objectif zéro mort, a reconnu la mort de 2 personnes. Au Tchad, le parquet a abandonné les poursuites visant un journaliste et un militant d'un mouvement citoyen arrêté la semaine dernière. C'est ce qu'ont annoncé leurs avocats ce lundi. Alain Kemba Dida avait été arrêté lundi dernier à N'Djamena alors qu'il s'apprêtait à brûler des pneus avec une bouteille d'essence. Il a subi des tortures et il a les pieds enflés, avait affirmé un de ses avocats. Concernant Martin Inoua Doulgué, directeur de publication du journal Salaminfo, il avait été arrêté jeudi, 2 jours seulement après la création de son journal. Au Soudan du Sud, près de la moitié de la population est en situation de faim extrême, soit une hausse de 40% sur un an, selon un rapport de 3 agences des Nations Unies publié ce lundi. En janvier 2018, plus de 5 millions de personnes, soit 48% de la population totale, étaient en situation d'insuffisance alimentaire, estime le document. En 2017, le Soudan du Sud avait connu 4 mois de famine. Le pays est ravagé depuis 2013 par la guerre civile.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président sud-coréen Moon Jae-in exhorte les États-Unis à abaisser leur niveau d'exigence pour des discussions avec Pyongyang. Un général nord-coréen a été reçu à Séoul pour discuter des moyens de faire retomber les tensions. Le point avec Lionel Gaïma.
Le rideau est tombé sur les Jeux olympiques de Pyeongchang. Dans une offensive de charme, le leader nord-coréen Kim Jong-un a dépêché sa propre sœur à l'ouverture des Jeux, puis le général Kim Yong-chan pour la clôture. D'après Séoul, le général qui a été reçu hier par le président sud-coréen Moon Jae-in a exprimé le souhait de Pyongyang de discuter avec les États-Unis. Kim Yong-chol a rencontré ce lundi plusieurs proches conseillers de M. Moon, réaffirmant que les portes sont ouvertes pour un dialogue avec les États-Unis. Le président sud-coréen a ajouté que les États-Unis doivent abaisser leur niveau d'exigence pour des discussions dès que possible. Dans un communiqué, la Maison-Blanche a répondu qu'elle attendait de voir si le message de la Corée du Nord sur la volonté de dialoguer était un premier pas vers la dénucléarisation. Washington a même accentué vendredi ses mesures de rétorsion contre Pyongyang. Le président Donald Trump les a qualifiées de sanctions les plus lourdes jamais imposées contre un pays.
Conflit en Syrie, le président Vladimir Poutine a ordonné l'instauration à partir de demain d'une trêve humanitaire dans la Ghouta orientale. Des propos qui font suite à la déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui demande l'application immédiate du cessez-le-feu adopté samedi au Conseil de sécurité. Clairement Angibourg.
C'est le ministre russe de la Défense qui s'est exprimé par communiqué. Sur ordre du président russe et dans le but d'éviter les pertes parmi les civils de la Ghouta orientale, une trêve humanitaire quotidienne sera instaurée à partir du 27 février de 9h à 14h. Selon M. Shoigu, des couloirs humanitaires seront mis en place pour permettre l'évacuation des civils. Cette mesure intervient après l'adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution réclamant sans délai un cessez-le-feu humanitaire d'un mois en Syrie. Plus de 550 civils ont été tués en 8 jours par les frappes du régime syrien sur la Ghouta orientale, ce fief rebelle près de Damas. Ce texte a nécessité plus de 15 jours de négociations pour obtenir l'assentiment de la Russie, alliée du régime de Bachar el-Assad.
Par ailleurs, la Turquie a déployé des unités des forces spéciales de la police dans le nord-ouest de la Syrie en prévision d'affrontements urbains contre la milice kurde des unités de protection du peuple. Pour l'instant, les combats se concentrent surtout dans des villages, hameaux et zones rurales éloignées des villes, a indiqué un porte-parole du gouvernement turc. Mais les affrontements glisseront vers les zones où vivent des civils au fur et à mesure que l'espace se réduit, a-t-il précisé. L'Iran a affirmé que le conflit au Yémen était le résultat des ventes d'armes britanniques et américaines à l'Arabie Saoudite, rejetant les accusations selon lesquelles Téhéran envoyait des armes aux rebelles houthis. Ce qui se passe au Yémen est le résultat des exportations d'armes britanniques et américaines vers l'Arabie Saoudite et un tel comportement n'est pas acceptable, a déclaré Bahram Ghassemi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Par ailleurs, 6 soldats yéménites ont été tués par erreur lors de frappes aériennes de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. En Allemagne, plusieurs tags portant l'inscription « nazi » ont été découverts ce lundi sur des véhicules et le local d'une soupe populaire à la suite de la décision de l'établissement de ne plus servir d'étrangers. La décision controversée de cette soupe populaire de ne plus servir de repas de ne plus servir de repas qu'à des Allemands a été annoncé la semaine dernière et suscite depuis un vif débat dans le pays. L'établissement s'est justifié en expliquant que l'afflux de réfugiés ces dernières années désavantageait les pauvres originaires de la localité dans l'accès à l'aide alimentaire. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a demandé la démission du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme pour avoir accusé le premier ministre hongrois Viktor Orbán de xénophobie et de racisme. Il est très inapproprié que des responsables de l'ONU accusent des États membres et des leaders élus démocratiquement. Il est évident que Zeid Ra'ad Al Hussein doit démissionner, a-t-il déclaré devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Un séisme de magnitude 6,1 a touché l'est de l'Indonésie ce soir, mais aucune alerte au tsunami n'a été émise. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manalekiza.
Le Mali est redevenu le premier producteur de coton en Afrique devant le Burkina Faso. Sur la saison 2017 et 2018, la récolte a dépassé les 700 000 tonnes. La fixation d'un prix aux producteurs incitatifs et de l'approvisionnement en engrais et produits phytosanitaires ont favorisé cette dynamique. Le coton est la principale culture de rente plantée en rotation tous les 3 ans avec le maïs et le sorgho millé et cultivée sans irrigation. Le pays dispose de 3 millions de producteurs de coton et exploite 700 000 hectares. Le Mali a renoncé aux semences OGM pour éviter l'expérience malheureuse du Burkina Faso. Les recettes touristiques en île Maurice sont atteintes près de 2 milliards de dollars avec une hausse de 8% en 2017. En revanche, Maurice a accueilli moins de touristes que prévu. D'après les estimations des autorités, les arrivées de touristes sur l'île devraient atteindre 1,43 million en 2018. Aux États-Unis, la holding du milliardaire américain Warren Buffett tire profit de la récente réforme fiscale qui a fortement abaissé l'impôt des entreprises. Berkshire Hathaway a récupéré 29 milliards de dollars en 2017. Son bénéfice net a atteint près de 45 milliards. L'entreprise a augmenté son trésor avec 116 milliards en liquidités. Berkshire Hathaway détient des actions dans une quinzaine de grandes entreprises dont American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola, General Motors, Goldman Sachs et Southwest Airlines.
Yacouba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane et bonsoir à tous.
Bienvenue pour cette page des sports et on connaît les combinaisons du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans.
Il faudra passer par 3 tours pour certains Abdourahmane, 2 pour d'autres. Avant d'atteindre les phases finales du Niger 2019, quelques affiches comme Gabon, Togo, Mauritanie, Maroc ou encore Algérie, Tunisie vaudront bien le détour. À suivre également Ouganda, Afrique du Sud et Tanzanie, RD Congo. Les matchs aller sont prévus les 30, 31 mars et 1er avril et les matchs retour, 3 semaines après. À l'issue de ces éliminatoires, 8 pays seront qualifiés pour la phase finale au Niger pour succéder à la Zambie, actuelle tenante du titre.
65 supporters arrêtés à Marrakech après des violences.
Oui, Abdourahmane, ces supporters ont été arrêtés et placés en garde à vue après des actes de vandalisme perpétrés dimanche soir au stade de Marrakech. Ces incidents qui ont fait 14 blessés parmi les forces de l'ordre se sont déroulés au cours du match perdu par le Kaoukab de Marrakech face au Raja de Casablanca 3-0. Plus de 2000 sièges ont été arrachés pendant le match alors que l'arbitre avait dû arrêter la rencontre pendant 6 minutes après ces actes de vandalisme selon la presse locale. Peu avant le match, 5 supporters du Raja ont trouvé la mort dans un accident sur le chemin du stade, d'après les médias locaux.
Zidane espère que Neymar sera rétabli à temps.
Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a assuré n'être pas forcément content de la blessure de la star parisienne Neymar à une semaine d'affronter le PSG pour ce choc de Ligue des Champions. Hier, le Brésilien est sorti sur civière contre Marseille 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Blessé à une cheville, tout compte fait, Zinedine Zidane a signifié que cette blessure de Neymar ne va rien changer dans ses plans pour ce 8e de finale retour au Parc des Princes.
Et puis Marie-Josée Talou, en pleine forme à quelques jours des mondiaux d'athlétisme.
Tout à fait, Abdourahmane. La sprinteuse ivoirienne vient de signer une éclatante victoire sur 60 mètres à une semaine du début des championnats du monde en salle de Birmingham. La double championne du monde sur 100 et 200 mètres a brillamment remporté le 60 mètres du Grand Prix hindou de Glasgow hier. Tammy, 7 secondes, 7 centièmes.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'est demain mardi que s'ouvre au Burkina Faso le procès des auteurs du putsch manqué de 2015. Un procès marathon qui va permettre d'auditionner plus de 80 accusés, dont le général Gilbert Diendéré. La guerre des mots, elle, est déjà engagée entre différents protagonistes du procès. Reportage à Ouagadougou, Issa Napon.
Le match entre accusateurs et défenseurs du général Gilbert Diendéré et 83 autres accusés se joue depuis plusieurs jours dans les médias. Les organisations de défense des droits de l'homme attendent beaucoup de ce procès pour que les victimes se fassent entendre. Pour le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, ce procès doit être rigoureux et transparent afin de marquer la fin de l'impunité. Chrisse Gonzoug-Mouré.
Le MBDHP rappelle que cette résistance populaire a fait 14 personnes tuées, essentiellement par les balles d'éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, ainsi que de nombreux blessés, dont certains marqués à vie.
Devant la chambre de jugement du tribunal militaire de Ouagadougou, ce procès sera ouvert au public au palais des sports de la capitale. La justice et le droit sont les maîtres mots pour un procès qui ne doit oublier aucun des témoins pour un jugement équitable, estime Maître Prosper Farama, un des avocats de la partie civile.
Si des gens ont tué, qui a tué? Qui a donné l'ordre de tuer? Et si ces gens-là sont identifiés, ils doivent être sanctionnés. C'est pas nous qui mettons la pression sur la justice, contrairement à ce que vous pouvez penser. Pour ce procès-là, nous ne faisons aucune chasse à quelque sorcier que ce soit. Les victimes ne veulent pas de vengeance. Elles demandent la justice. Et ce que nous nous demandons, c'est que tout le monde, quelle que soit la personne, au degré où elle se trouve, qui soit impliquée dans cette affaire, soit entendue. Car à l'issue de ce procès, on n'a pas l'impression qu'il y ait de non-dits, qu'il y ait des choses cachées. Si des gens disent que certaines personnes sont impliquées, ben, il faut les entendre. Les gens peuvent se réconcilier, c'est leur droit. Mais ceux qui ont commis des crimes sont condamnés.
Les partisans des accusés, à coup de conférence de presse, crient à un procès politique. C'est le cas notamment du président de la nouvelle alliance du Faso Nafa, la formation politique du général Gilbert Bassolé, également inculpé dans le dossier. Il y a manifestement ingérence du pouvoir, martèle le professeur Mamoudou Diko.
Au niveau de la Nafa, nous avons un souci pour notre leader, son individu Bassolé, parce que tout simplement, il y a eu d'abord une question de justice qui n'a pas été bien expliquée à notre avis, parce que le juge lui avait donné une liberté provisoire et tout le monde a suivi ce qui s'en est suivi. Les gens ont refusé d'appliquer cette décision et a été embrigadé par le pouvoir inquiété. Bon, c'est un arrêté que l'autre ministre a pris à posteriori, l'empêchant même de juger sa décision judiciaire. Nous sommes sceptiques par rapport à l'indépendance totale au niveau de la justice militaire. Nous devons croire que parmi eux, il y a des juges quand même qui vont privilégier l'intérêt supérieur de la nation.
83 témoins passeront donc à la barre pour éclairer l'opinion sur ce jour de septembre 2015 où le général Gilbert Diendéré prit brièvement les commandes du pays après un putsch soutenu par le régiment de sécurité présidentielle et selon certaines sources par le général Djibril Bassolé et de nombreuses autres personnalités. Les accusés sont poursuivis notamment pour atteinte à la sûreté de l'État, trahison, meurtre et de coups et blessures volontaires. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin à 19h05, temps universel, ce mardi 27 février, juste après les nouvelles. Pour une discussion avec Judith Omanda, militante des droits humains à New York, cofondatrice et secrétaire générale de la diaspora gabonaise pour la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Mademoiselle Omanda partagera avec nous son engagement politique en tant que jeune femme. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ce mardi.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé que son gouvernement allait procéder à la vente de tous les biens volés non réclamés et que l'argent serait déposé dans le compte du Trésor national. L'administration Buhari a récupéré de nombreuses propriétés volées aux fonctionnaires corrompus au Nigeria et dans plusieurs autres pays, y compris au Royaume-Uni depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Comment réagissent les Nigérians? Suivons ce reportage de Gilbert Tomba, le correspondant de VOA Afrique sur place.
Attaquer la corruption au sein de l'administration était l'une des promesses majeures de campagne du président Muhammadu Buhari. L'agence anticorruption a procédé à des arrestations massives d'anciens responsables politiques soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics. Certains anciens ministres, gouverneurs, directeurs d'agences fédérales encore en fonction font partie de la liste noire de l'IFCC, la Commission de lutte contre les délits financiers. Problème, nombreux parmi eux sont ceux qui demandent être les propriétaires des biens qui leur ont été attribués par les différentes agences de lutte contre la corruption suite aux enquêtes ouvertes il y a plusieurs mois. La décision du président nigérian de vendre ses biens et placer cet argent dans un compte du Trésor national est saluée mais suscite des interrogations dans le pays. Hidayat Hassan est la directrice du Centre pour la démocratie et le développement, un organe qui combat la corruption.
Les rapports de plusieurs cas n'ont pas été publiés jusqu'ici, parce que la volonté politique seulement ne suffit pas à combattre la corruption. Il faut aussi être transparent dans le processus. Il faut par exemple montrer le montant retracé et montrer le rapport de certains cas enquêtés.
D'autres veulent tout simplement que ces fonds soient directement investis dans le développement des infrastructures pour la création des emplois pour des milliers de jeunes Nigérians diplômés au chômage. Hamzat Laval est activiste et directeur exécutif du CODE, Connected Development.
Pour moi, cela n'a pas de sens pourquoi, après la vente, il va mettre ses fonds dans le compte de notre trésor national. Aujourd'hui, nous traversons une crise silencieuse. Nos infrastructures sont dans un état déplorable. Nous devons investir plus dans les infrastructures parce que vous ne pouvez pas recevoir un investissement international si vous n'avez pas d'infrastructure. Donc, je vais croire qu'il ne va pas placer ses fonds dans le compte du trésor national.
Tout comme ces activistes qui combattent la corruption, les populations ne cachent pas également leurs inquiétudes.
Depuis tout ce temps, ils donnent des promesses qu'ils vont annoncer et publier les noms des personnes impliquées et jusqu'ici, ils n'ont pas pu faire ça. Donc, si vous voulez faire quelque chose comme tel et vous voulez le faire dans le secret, cela peut aboutir à une chasse à l'homme et une sélection. Dans ce cas, la corruption qu'ils combattaient n'est pas une lutte totale.
Le Nigeria a retracé et récupéré avec succès 2,9 milliards de dollars entre mai 2015 et octobre 2017, selon la Commission des crimes économiques et financiers, IFCC. L'un des cas les plus célèbres est celui du colonel Sambo Dazuki, l'ancien conseiller national en sécurité de l'ancien président Goodluck Jonathan, accusé d'avoir détourné plus de 2 milliards de dollars. De l'argent voté pour l'achat d'armes destinées à la lutte contre l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
À Djibouti, l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, a annoncé avoir remporté 58 des 65 sièges de députés, soit 3 de plus que lors du scrutin de 2013 à l'issue des législatives de vendredi. Une large victoire qui n'est pas une surprise pour le parti du président Ismaël Omar Guelleh, lui-même en poste depuis 1999, d'autant que le scrutin a été une nouvelle fois boycotté par une large partie de l'opposition. Pour réaction, Jacques Aristide s'est entretenu avec l'opposant djiboutien Saïd Hussein Roblé, président de l'Union pour la démocratie et la justice, en exil à Bruxelles.
C'est un show électoral que nous assistons aujourd'hui. Ce n'est plus une fraude, mais c'est un show électoral. Il n'est pas pour moi étonnant de voir de tels résultats.
Mais l'opposition est-elle à blâmer également, car contrairement au scrutin de 2013, elle est partie en ordre dispersé. L'USN, l'Union pour le Salut National, n'est plus qu'un champ de ruines aujourd'hui, n'est-ce pas?
Non, l'opposition n'est pas à blâmer parce qu'elle a appelé au boycott en 2016 et en 2018. Le problème, ce n'est pas l'opposition, mais ce sont les faux opposants.
Que voulez-vous dire exactement par faux opposants?
Les faux opposants, c'est ceux qui ont participé à l'élection présidentielle et ceux maintenant des législatives, ce n'est pas l'opposition USN ni les vrais opposants.
Vous, au niveau de l'UDJ, que réclamez-vous? Comment cette situation peut-elle changer éventuellement?
Cette situation peut changer, elle est arrivée pas seulement à l'UDJ, elle est arrivée à tous les partis de l'opposition où il existe pour chaque parti d'opposition un clone. Donc l'UDJ que vous voyez aujourd'hui, c'est un clone de l'UDJ, car la NAFI qui maintenant, qui prétend présider l'UDJ, ne représente pas l'UDJ, mais elle veut utiliser le nom de son père, qui est en réalité le vrai fondateur de l'UDJ. Donc elle n'est pas la vraie présidente de l'UDJ, et c'est un clone de l'UDJ. En réalité, il n'y aura pas d'élection au pays, ni d'alternance politique, parce que nous avons des expériences électorales avec le terrain, avec la présidente du Sénat d'Argomé, il n'y aura pas d'élection ni d'alternance politique. Le changement viendra seulement par deux choses, soit une révolution populaire, soit par la lutte armée, parce qu'il n'y aura pas de changement avec Sénat d'Argomé, qui a montré toutes ses limites. Donc, à part ces deux options-là, il n'y aura pas. Je suis maintenant en exil. J'étais également député de l'opposition pour le parti UDJ, mais j'ai été fusillé au pays le 21 décembre 2015. Malgré que j'étais député, même j'ai été battu sur la place publique le 10 décembre 2015, là je viens de voir la liste de l'UMP au pouvoir contre la liste de l'opposition UDJ-PDD. Mais en vérité, l'UDJ-PDD, c'est pas un parti, mais c'est deux personnes, l'UDJ clone. Donc, pour ce qui concerne l'UDJ et qui me concerne, cette fille-là ne représente ni l'UDJ, ni l'opposition. Donc, ça montre la preuve que c'est un show électoral. Ils prennent les deux casquettes, une casquette du parti au pouvoir et l'autre casquette de l'opposition. Ces pays, il n'y aura jamais des élections législatives.
C'était l'opposant djiboutien Saïd Hussein Robley, président du parti UDJ, en ligne de la capitale belge. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique a déclaré devant le Conseil de sécurité à New York que la paix était en marche en RCA, cela malgré les violences dans le quartier PK5 de Bangui et dans plusieurs localités du nord et du centre du pays. Félix Yepassi Zembrou a joint Parfait Oronga Onyanga.
Absolument que je le confirme. La question centrale à laquelle nous sommes confrontés, et nous avons les statistiques pour le confirmer, c'est la question de la criminalité. Vous savez que ce sont eux-mêmes les commerçants qui sont venus trouver la MINUSCA en nous disant « trop c'est trop ». Alors qu'au début, ces groupes s'étaient affublés le titre de groupe d'autodéfense parce qu'on sortait à peine de la crise et qu'il y avait peut-être un besoin, c'est vrai, pour les communautés, en l'absence de l'autorité de l'État, de s'auto-protéger. Aujourd'hui, ces groupes armés sont devenus des organisations criminelles et qui taxent les commerçants du kilomètre 5, sont devenus donc un vrai problème de société dont il faut, dès que possible, se débarrasser. Cela ne veut pas dire que la paix n'est pas en marche en Centrafrique. Cela ne veut pas dire que les choses sont simples ailleurs. Au contraire, nous faisons face encore à d'énormes difficultés. Et c'est bien pour ça aussi que le Conseil de sécurité a consenti à accroître les capacités de la MINUSCA. Et c'est bien pour ça également que nous sommes nous-mêmes avec le gouvernement à pied d'œuvre, avec l'Union européenne et d'autres, à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité centrafricaines.
Hormis la situation à Bangui, dans l'arrêt pays, cette paix dont vous parlez, elle est longue et ardue en Centrafrique.
Le fait est clair. Aujourd'hui, il y a un processus de restauration de l'autorité de l'État. Nous travaillons dans le domaine de la sécurité, nous travaillons dans le domaine de la justice et nous avons également le processus de paix qui est en train d'être mis en œuvre. L'État a été absent pendant longtemps dans trop de parties du pays. La nature n'est même pas le vide. Des groupes armés se sont établis, non seulement ils causent tant de tort à la population civile, mais beaucoup d'entre eux sont investis dans une prédation qui ne sera pas facile à réduire. Donneront le temps que ça prendra, mais il est clair que le train de la paix en Centrafrique, je le dis encore une fois, est en marche.
L'opinion centrafricaine a toujours indexé la MINUSCA pour sa passivité devant les violences des groupes armés sur la population civile.
J'ai toujours dit que je comprenais la frustration des populations civiles centrafricaines. Aucune population, dans quelque pays que ce soit, ne peut accepter de vivre pendant longtemps sous la menace et la violence. Je suis le premier choqué par les crimes horribles commis par les groupes armés, par les violations massives des droits de l'homme dont ils sont responsables. Moi, je comprends la frustration des populations centrafricaines qui auraient souhaité que nous mettions fin à toutes ces violences rapidement. Mais la nature de la tâche est immense. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, mais il nous faudra redoubler d'efforts. Nous sommes absolument à cheval sur des questions de performance. Progressivement, j'appelle ici à la patience, nous allons utiliser
tous les moyens. Nous allons utiliser la force à bon escient, comme nous l'avons fait à Power récemment, comme nous l'avons fait à Bambari l'année dernière, à Bokaranga, à Bam. Nous continuerons à utiliser la force toutes les fois que des organisations criminelles ou des groupes armés attenteront comme ça à la vie de paisibles citoyens centrafricains.
Voilà, c'était Parfait Onanga Onyanga, patron de la MINUSCA, joint à New York. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition réalisée par Georges Léonard Seignot. Merci, au revoir.
VOA Afrique.